Le journal Yves Decamp, bonjour Yves.
Bonjour. Un peu plus de 19% de participation ce midi au scrutin des européennes. C'est 3,5 points de mieux qu'en 2014. Les appels à voter ont-ils été entendus? Illustration dans un bureau de vote à Paris dans un instant. 751 eurodéputés sont à élire dans toute l'Union pour un Parlement européen dont les pouvoirs n'ont cessé de s'accroître depuis le traité de Lisbonne, comme nous l'expliquera Angélique Bouin à Bruxelles. Dans ce journal également, un an après le vote des Irlandais pour l'avortement, comment se met en place la nouvelle loi? C'est le droit de suite de ce dimanche 13h. Alors que le droit à l'IVG se voit de plus en plus menacé dans de nombreux pays, on en parle avec notre invitée, coprésidente du planning familial. Des films à connotation sociale très marqués au palmarès du Festival de Cannes. La première palme d'or d'un cinéaste coréen, un grand prix pour le Sénégal. Le jury présidé par Iñárritu a fait le choix du renouvellement. Qu'en sera-t-il à Roland-Garros où les anciens Nadal et Djokovic font figure de favoris et fait son retour? Le point sur ce premier jour à la porte d'Auteuil, tout à l'heure avec Fabrice Abral.
France Inter.
On vote ce dimanche dans 21 pays d'Europe pour l'élection des eurodéputés, 79 eurodéputés pour la France, où 34 listes de candidats se présentent au suffrage, dont beaucoup n'ont pas fait imprimer de bulletin par manque de moyens. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h ce matin et le resteront jusqu'à 18h dans la plupart des cas, 19 ou 20h dans les plus grandes villes. À midi, un peu plus de 19% des électeurs s'étaient déplacés pour aller voter. C'est mieux qu'en 2014, 3,5 points de mieux. À vérifier, bien sûr. Ce soir, on sait que cette élection européenne est généralement marquée par une forte abstention, malgré les enjeux particulièrement importants. Mais c'est donc un regain de participation qui semble se dessiner, comme ici dans ce bureau du 12e arrondissement de Paris-Bercy où vous êtes allé, Yann Gallic.
Et il y avait beaucoup de monde ce matin dans ce bureau de vote. Certains électeurs ont même dû faire la queue pour déposer leur bulletin dans l'urne, comme Ginette, qui fait son devoir de citoyenne à chaque élection.
Surprise.
Vous êtes surprise de voir autant de monde?
Oui, il faut toujours voter pour toutes les élections. On aura fait notre devoir.
C'est important pour vous de venir voter pour ces élections européennes?
Oui, c'est le seul endroit où on peut vraiment s'exprimer.
À voter.
C'est la première fois que je peux voter vu que je suis majeure depuis cette année. Je pensais que c'était important, surtout pour les élections européennes. C'est des élections qui passent un peu inaperçues, mais en vrai, elles sont quand même assez importantes.
Près de 1500 électeurs sont inscrits sur les listes de ce bureau du 12e arrondissement. À 11h du matin, le taux de participation était ici de 13%, une participation plutôt élevée pour un scrutin européen, explique Fadila Tayeb, la présidente du bureau de vote.
Comme vous avez pu le constater, c'est un flux constant qui ne nous laisse pas de moment de répit. On essaye d'ailleurs de faire avancer, vous avez vu, on s'arrange pour que les gens n'attendent pas trop. Ça correspond un petit peu à la morphologie de l'arrondissement ou à la typologie. Les gens votent beaucoup, voilà, il y a une citoyenneté importante dans ce bureau.
À Paris, comme dans la plupart des grandes villes, les électeurs pourront donc voter jusqu'à 20h.
En sachant, Yann, que c'est à Paris et dans la petite couronne qu'on a le moins voté pour l'instant, à l'inverse de l'Indre, des Alpes de Haute-Provence et de Corrèze. En tout cas, le scrutin est déjà terminé dans 7 pays d'Europe, dont certains avaient voté dès jeudi. En tout, ce sont 427 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes pour l'élection des 751 représentants européens du Parlement européen, dont les pouvoirs sont plus importants qu'on le croit trop souvent. Angélique Bouin, vous êtes la correspondante de France Inter à Bruxelles. Bruxelles où se réunit parfois le Parlement dont le siège officiel, on le sait, est à Strasbourg et dont le rôle s'est bien accru depuis le traité de Lisbonne.
Oui, coincé entre la Commission européenne qui propose les lois et les États souvent jaloux de leur pouvoir. Ce n'est pas l'institution la plus puissante hein, ici à Bruxelles, mais elle a depuis 2009 en effet un rôle renforcé. Et on peut dire que sous la dernière mandature, 2014-2019, les eurodéputés se sont plutôt bien saisis hein, de leur pouvoir de co-législateur avec le Conseil, cette instance qui réunit, elle, les différents ministres des 28 États membres. Aujourd'hui, quand une directive ou un règlement est adopté, il a été dans 9 cas sur 10 le fruit d'une décision à part égale entre ces deux institutions. Et depuis 2014, eh bien, sur plusieurs propositions, en particulier sur des questions environnementales, les eurodéputés ont été parfois plus loin hein, que ce que voulait la Commission. Alors bilan, on peut citer l'interdiction des plastiques à usage unique, la réforme des droits d'auteur, la réforme du travail détaché ou encore le non à la pêche électrique. Le règlement sur la protection des données est aussi un texte qui aura marqué cette mandature. Il est devenu en effet une référence mondiale. Et puis le Parlement européen a gagné clairement en crédibilité selon plusieurs experts car il est moins dépendant depuis 5 ans des lobbies industriels, la transparence s'est accrue et les ONG ont renforcé de leur côté leur influence, ce qui fait en fait un équilibre.
Angélique Boin à Bruxelles. Élection européenne à suivre, bien sûr, ce soir sur France Inter. Émission spéciale de 19h15 à 22h animée par Claire Servageant. À propos d'Europe, seule Malte interdit encore l'avortement sur le vieux continent, où même l'Irlande a fini par l'autoriser. C'était il y a un an, à l'issue d'un référendum historique. Les Irlandais s'étaient prononcés à plus de 66% pour la suppression du 8e amendement inclus à leur constitution. Un amendement qui plaçait la vie de l'enfant à naître à égalité avec la vie de sa mère et n'avait été que largement assoupli depuis. Jusqu'à l'année dernière, seul un cas de risque mortel pour la mère pouvait permettre une IVG. IVG désormais autorisée jusqu'à 12 semaines de grossesse et l'intervention est gratuite, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'ait pas de limite. C'est le droit de suite de ce dimanche 13h en Irlande, Julien Lagache.
Un an après le référendum et 6 mois après l'entrée en vigueur de la loi, les autorités irlandaises ne communiquent pas sur les chiffres des consultations et des recours à l'avortement. Difficile donc d'établir un premier bilan. Alva Smith, figure historique du combat pour l'IVG, retient, elle, les premières limites rencontrées.
Beaucoup a été fait sur un laps de temps relativement court, mais il ne fait aucun doute que l'offre médicale reste inégale à travers le pays. D'après ce que nous savons, il n'y aurait que 10 ou 11 maternités sur 19 à l'échelle nationale qui peuvent proposer tous les services requis. Il faut améliorer cela et y parvenir le plus vite possible.
Du côté des médecins, au cœur de la réforme, seul 1 sur 10 est à l'heure actuelle enregistré auprès des autorités de santé pour pratiquer des interruptions de grossesse. Pas de quoi empêcher le système de fonctionner, juge Mary Short, généraliste à Dublin, pour qui il faut du temps afin de développer le service.
Tout d'abord, il y a des cabinets qui ont trop de patients, qui n'ont donc pas le personnel ou les équipements pour une prise en charge. Certains cabinets comptent des objecteurs de conscience et il y a des médecins qui attendent encore le feu vert des autorités pour passer contrat avec l'État. Maintenant, nous aimerions clairement qu'ils soient plus nombreux à se sentir prêts à recevoir une formation afin d'offrir ce service.
D'autant que la loi requiert 2 visites à 3 jours d'intervalle pour procéder à un avortement. Combiné au manque de bras et de moyens, cela peut être un frein à l'accès à l'IVG, s'inquiètent ses partisans, qui dénoncent aussi les intimidations subies par certains médecins ouvertement favorables à la nouvelle législation. Dublin, Julien Lagache, France Inter.
Voilà, la loi ne suffit pas, hein. Encore faut-il pouvoir l'appliquer. Invitée de ce droit de suite, Véronique Seyé, coprésidente du planning familial. Alors la situation est paradoxale, hein, sur le droit à l'avortement, un droit qui progresse dans les pays qui ne l'appliquaient pas, mais régresse dans certains pays où il était acquis. Je pense aux États-Unis, au Brésil, à l'Argentine, à la Pologne.
Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant dans le reportage que vous venez de citer, c'est effectivement que la loi ne suffit pas et il y a plein de façons de faire régresser ce droit. Alors en Irlande, ce qui est important, c'est effectivement que massivement des médecins ont envie de se positionner dessus, qu'ils disent bien qu'ils ont besoin de formation et que les services ne suffisent pas aujourd'hui non plus. N'oublions pas qu'en Irlande du Nord, par contre, il n'y a toujours pas de solution pour les femmes d'Irlande du Nord. Elles ont moins loin à aller, elles ont peut-être eu à prendre le bateau, elles peuvent aller en Irlande du Sud, mais il y a un réel problème sur ce droit, et puis encore à Malte aujourd'hui. Et quand on prend un pays comme la Pologne, la loi est très restrictive. L'avortement est autorisé dans des cas de viol, de danger pour la mère ou de graves malformations fœtales, et même ces 3 cas-là, la Pologne essaye sans arrêt de revenir en arrière. Et dans ces cas-là, même les femmes ne peuvent pas avoir accès aux services nécessaires.
Et on a vu des manifestations encore hier en Croatie, hein, contre l'avortement. Ces menaces sur l'avortement sont liées au progrès des mouvements et des gouvernements conservateurs à arriver au pouvoir pour de tout autre raison, hein, cela dit, parce que ce n'est pas que leurs soutiens sont d'accord sur ce point. Globalement, les populations, elles soutiennent le droit à l'avortement.
Très clairement, toutes les populations en général soutiennent ce droit à l'avortement, mais il y a une très forte pression, comme vous le dites, de gouvernements conservateurs, mais aussi de mouvements anti-choix très bien organisés en Europe et d'ailleurs soutenus par des fonds américains et des fonds européens d'ailleurs, hein, contre ce droit à l'avortement, contre les droits des femmes en général. Hein, on peut dire que, et moi j'irais même plus loin quand on voit dans certains pays que droits des femmes et démocratie sont étroitement liés. Et donc je pense que c'est vraiment aujourd'hui un enjeu fondamental de faire en sorte que toutes les femmes aient accès à ce droit. Et on voit les mouvements de masse des femmes avec des hommes à leur côté d'ailleurs, se battre pour ce droit. Hein. On parle des USA aujourd'hui, c'est vrai que la situation est dramatique dans certains pays, que l'objectif est très clair de la part de gouvernements conservateurs de renverser au niveau national la possibilité pour les femmes d'avorter, hein, avec au niveau de la Cour suprême, hein, Roe v. Wade, qui veulent vraiment renverser. Mais j'espère que la mobilisation des femmes et des mouvements progressistes permettra d'éviter ce renforcement. Et je pense à l'Argentine, par exemple. L'Argentine, le 28 mai, représente une loi qui a déjà beaucoup progressé, avec derrière le soutien massif de la population argentine pour défendre ce droit à l'avortement. Le 28 mai, la loi sera représentée. Elle est soutenue par vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et j'ai envie de dire que la mare est verte, puisque le foulard vert est le signe de ralliement à cette mobilisation. Cette mare verte s'étale sur toute l'Amérique latine aujourd'hui. Donc il y a un mouvement populaire important pour garantir à toutes les femmes ce droit fondamental.
Voilà, une vigilance qui doit être de tous les jours et qui doit rester d'actualité. Merci beaucoup Véronique Seyé, co-présidente du planning familial. Merci d'avoir été notre invitée. Pas moins de 6 immeubles endommagés la nuit dernière à Bordeaux par un important incendie. Un incendie qui s'était déclaré vers 18h dans un îlot de bâtiments du quartier du Jardin Public, d'où 70 personnes ont été évacuées. Pas de victimes, mais de gros dégâts et une grosse frayeur, bien sûr, pour les riverains qu'a rencontré Louise Buyens de France Bleu Bordeaux Gironde.
J'habite dans l'immeuble juste à côté, au 16 rue Ferrer. J'ai vu les gens d'en bas qui faisaient des grands yeux sur l'immeuble, donc du coup j'ai entendu au feu, donc j'ai pris mon chat et je suis sortie, voilà.
Je suis arrivé au début et du coup j'ai aidé à la police à évacuer l'immeuble. Bah, juste on a été tapé aux portes pour voir si des gens étaient encore présents ou pas.
C'est mon fils qui m'a dit que ça sentait le cramé, comme un barbecue. Et quand j'ai ouvert les fenêtres, je me suis rendu compte que c'était le feu qui était juste en train de prendre. Ça commençait juste, mais en 5 minutes, ça a pris et ça a explosé et tout a cramé. J'ai eu la peur de ma vie, ouais, parce que c'est hyper impressionnant.
Puis d'un coup, ça a fait boum, comme un crépitement, puis une petite explosion.
En plus, ne voyant pas si c'était d'en bas, il y avait une telle fumée noire qu'au départ, je n'ai pas vu si c'était notre immeuble ou celui d'à côté. Voilà, ça m'a choquée. On s'est prévenus entre voisins, il y a une belle solidarité et donc voilà.
Voilà, deuxième incendie de grande ampleur en 8 jours à Bordeaux, où la semaine dernière, plus de 200 voitures avaient brûlé dans un parking souterrain.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamp.
And the winner is à Cannes. C'est une première. Un film coréen reçoit la Palme d'Or. Parasite de Bong Joon-ho. Film politique et social qui met en lumière les inégalités de destin de deux familles. Une Palme d'Or qui a fait l'unanimité du jury et des critiques. Une fois n'est pas coutume. Les autres récompenses de ce 72e festival reviennent à la cinéaste sénégalaise Mati Diop. Grand prix du jury. On va y revenir. Un prix du jury pour Les Misérables du français Ladjli. Autre film sur les inégalités sociales. Les prix d'interprétation reviennent à l'anglaise Emily Beecham et l'espagnol Antonio Banderas, acteur fétiche d'Almodovar qui, lui, n'a encore rien eu comme n'ont rien eu non plus les habitués de Cannes que sont Tarantino, Malick ou Ken Loach. Comme si le jury, présidé par Alejandro González Iñárritu, avait voulu mettre en avant de nouveaux visages. Corinne Pellissier, vous avez suivi bien sûr cette cérémonie cannoise. On a l'impression que le changement à Cannes, c'est maintenant.
Exactement, je vous propose de remonter le temps pour revenir à l'une des surprises de ce palmarès.
Le grand prix du jury est attribué à
Atlantic for Mati Diop.
Voilà, le deuxième prix en importance accordé à un premier long métrage atlantique de la franco-sénégalaise Mati Diop, un film sur le sort des migrants, on ne peut plus ancrer dans l'époque, et le sentiment pour la plus jeune réalisatrice à concourir d'avoir enfin trouvé sa place.
J'ai vraiment senti les lignes bouger. Quand j'ai appris que le film allait en compétition, j'ai appris dans le même temps que le film de Ladjli, que le film de Céline Sciamma, par exemple. Il y a là aussi, et commence ça y est à exister.
Alors figure bien sûr à ce palmarès des habitués de la Croisette, les frères Dardenne, Antonio Banderas, Elia Souleymane, mais aussi des femmes comme Céline Sciamma, sélectionnée pour la première fois il y a 12 ans avec un premier film et qui est en train aujourd'hui d'installer son regard dans le cinéma français.
Le film est distingué dans une année qui, je crois, de la vie de tous et toutes est assez exceptionnelle. Et politique aussi dans la typologie des films, hein, pas juste dans ce dont ils parlent, mais aussi la façon par qui ils sont fabriqués, à quel prix, c'est des films d'indépendants, palmarès... et plein de primo-accédants, plein de jeunesse, et ça fait vraiment plaisir de faire partie d'un corpus comme ça, quoi.
De l'audace aussi chez Lajli, avec un premier film coup de poing sur les violences policières et la banlieue, Les Misérables, à la maîtrise très aboutie. Le géant Amazon en a cassé sa tirelire et dépensé 100 millions d'euros pour en acquérir les droits. Effectivement, il va bien falloir compter avec ses nouveaux visages.
Corinne Pélissier à Cannes, et c'est donc, on vient d'en parler, une réalisatrice franco-sénégalaise, Mati Diop, qui a obtenu le grand prix du jury pour son film Atlantique, tourné dans les rues de Dakar, d'où sont originaires les acteurs du film, notamment Mambi Neta Sané, qui tient le rôle principal et qui a rencontré dans la banlieue de Dakar William Delesseux.
Grand prix du jury, c'est dans la petite maison familiale que Mambi Neta Sané a appris la nouvelle.
Aujourd'hui, je suis très heureuse. Je remercie le bon Dieu et je prie pour que tout cela continue. Je remercie également mes parents. C'est grâce à eux si j'en suis arrivée là.
Une victoire partagée par son frère Badou Sané.
C'est extraordinaire même. On était là, on est sauté de joie là en ce moment-là. On est très 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 heureux même. On ne parvient même pas à expliquer notre joie là en ce moment-là.
À 19 ans, celle qui se destinait à devenir mannequin a rencontré par hasard Mati Diop. C'est dans une petite rue du quartier de Tiaroy Cinéma, ça ne s'invente pas, que la réalisatrice fait la connaissance de la jeune fille.
Mati a cru en moi, elle m'a encouragée tous les jours. Je me souviens, à une semaine du début du tournage, on devait répéter sur une scène particulièrement importante pour mon personnage. Mati a pris du temps pour me mettre à l'aise et pour que je me familiarise avec la caméra. Ce n'était pas facile, mais j'y suis arrivée grâce à elle, alors que je n'avais jamais fait ça avant. Et lorsque j'ai réussi cette première scène, j'ai gagné en confiance pour la suite du film.
Depuis le tournage, il y a un an, Mambi Neta Sané souhaite poursuivre sa carrière d'actrice. Dakar, William Delesseux, France Inter.
Trois Français condamnés à mort en Irak pour appartenance au groupe État islamique. C'est un verdict inédit pour des Français. Kevin Gonneau, Léonard Lopez et Salim Machou avaient été arrêtés en Syrie avant d'être transférés avec 9 autres Français en Irak au mois de février dernier. Ils ont 30 jours pour faire appel. En sport, le retour sur terre de Roger Federer, le Suisse aux 20 titres du Grand Chelem, revient sur la terre battue de Roland-Garros après 4 ans d'absence, et c'est l'événement de ce premier jour, porte d'Auteuil à Paris. Fabrice Abgral, même si bien sûr à bientôt 38 ans, le numéro 3 mondial n'a pas de prétention particulière dans ce tournoi, hein, qu'il n'a gagné qu'une seule fois, rappelons-le.
Oui, c'est vrai, c'était en 2009, il y a 10 ans maintenant, en effet, Roger Federer, vainqueur ici à Roland-Garros. Alors, il n'est pas là pour faire de la figuration. Hein. C'est le grand retour, évidemment, porte d'Auteuil de Roger Federer. Alors, le Suisse sera opposé à l'Italien Lorenzo Sonego aux alentours de 16h. Sonego classé 73e joueur mondial. Alors, ça devrait être une simple formalité pour Roger Federer. Federer considéré comme l'un des prétendants au titre, mais pas comme un favori. Un statut de favori partagé, évidemment, par Rafael Nadal, qui visera un 12e titre ici, porte d'Auteuil, et un statut partagé également par Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, vainqueur des 3 derniers tournois du Grand Chelem. Alors Federer, lui, n'a plus joué à Roland-Garros depuis 2015, vous l'avez dit, il a raté les 3 dernières éditions, en 2016 parce qu'il était blessé, et puis en 2017 et 2018 parce qu'il avait décidé de faire l'impasse sur la saison de terre battue pour mieux préparer Wimbledon. De son propre aveu, ça n'a pas été une grande réussite, la coupure de 2 mois qu'il s'était accordée n'a pas été bénéfique, du coup il a décidé cette année de changer ses plans et de revenir à Paris, mais alors véritablement sans pression, de revenir tout simplement sur terre pour garder le rythme de la compétition avant Wimbledon. Federer revient donc à Roland-Garros, mais c'est vrai que le Suisse part un petit peu dans l'inconnu.
Avec une première sensation ce matin, Fabrice, chez les femmes, hein, l'Allemande Kerber, Angélique Kerber, numéro 1, ex-numéro 1 mondial, aujourd'hui numéro 5, et qui chute dès le premier tour, battue par la Russe Potapova. Il y a 6 Français aussi au programme aujourd'hui.
Oui, 6 Français, dont un actuellement sur le court. Il s'agit de Hugo Humbert, opposé à Alexei Popperin, l'Australien 109e joueur mondial, et 2-7-1 en faveur de Popperin, puisqu'à l'instant même l'Australien a remporté le 3e set au tie-break, un tie-break dans lequel Hugo Humbert a bénéficié de 3 balles de set, mais malheureusement qu'il n'a pas pu concrétiser, donc 2-7-1 en faveur du jeune Australien.
Voilà, Fabrice Abgral qui va passer, c'est les 15 jours qui viennent à porte d'Auteuil. L'autre rendez-vous sportif de ce dimanche après-midi, c'est le Grand Prix de Monaco. Les 2 Mercedes d'Hamilton et Bottas en première ligne. La Red Bull Honda du français Gasly 4e. La Ferrari du monégasque Leclerc sur la 8e ligne.